Bonjour.
Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue, comme tous les dimanches soirs, sur le podcast Dimanche Dépression. C'est Guillaume et je suis toujours avec les habituels, je vais dire maintenant les régionaux de l'étape. On va commencer par les femmes. Salut Marine, comment ça va ce soir?
Bonsoir, ça va et toi?
Mais quelle voix sensuelle. Bah écoute, moi ça va plutôt, c'est le dimanche, le week-end se termine. Je sens toute ta plaisitude.
Tu dis des conneries.
Tu te rends bien compte que depuis la semaine dernière, t'es devenue notre victime officielle à moi et à Laurent et que ça va être le rôle que tu rempliras désormais dans tous les épisodes. C'est-à-dire cette personne qu'on va interpeller en mode « Et au fait, Marine, est-ce que tu suis ce qu'on est en train de dire et cautionnes-tu nos conneries ?»
Jamais.
Bon, et avec moi, j'ai le fabuleux, l'incroyable, l'homme en kilt de ce soir, à savoir Laurent. Comment ça va, Laurent?
Ça va très bien, j'ai passé une super journée, j'ai obtenu un kilt.
Bah, hey, c'est pas tant la dépression que ça pour un dimanche finalement.
Non, alors non, c'est pas dépression. Ce serait dommage que le jour de mon anniv, ça soit la dépression.
Et quel âge as-tu, Laurent, aujourd'hui?
Oui.
Le 4 siècle.
Tu sais que j'ai limite quelques regrets parce que la dernière fois que j'ai eu quelqu'un autour d'un podcast comme ça qui a fait son anniversaire, j'avais mis un petit Patrick Sébastien. Et là, je me rends compte que j'ai rien prévu, je suis un peu nul. Tu vois, un petit peu bam, Patrick Sébastien qui sort de nulle part.
Oui, alors ma mère passe assez souvent une musique de... Ah mais non, pas du tout. C'est le jour de ma fête qu'elle passe cette musique. Mais du coup, je vais pas en parler. C'est pas intéressant.
Bon, on va enchaîner parce que cette intro est bien trop longue.
Oui.
Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler du Monopoly. Alors je précise que ce sujet a été choisi par Laurent. On fait, comment dire, des choix sur les... Enfin, on propose des sujets à la cantonade la dernière fois pour... Qu'est-ce qu'on va parler dans Dimanche Dépression? Et Laurent nous a dit le Monopoly. Et on a trouvé ça finalement assez pertinent. Parce que c'est vrai que le Monopoly, c'est toujours un jeu chiant où on s'emmerde et on s'engueule. Oui. N'est-ce pas? Non, mais faire oui de la tête, ce n'est pas radiophonique.
Oui.
Alors, ce que je trouve chiant aussi, c'est les gens qui me disent que je vends des Monopoly. Parce que j'aime bien les jeux.
Écoute, on va y venir justement, sûrement dans le retour sur expérience. Je propose que nous lançons dans le gros de l'émission, en commençant comme d'habitude par les chiffres, prêts. Je pense qu'il y aura la chronique de Laurent comme chaque semaine. Après ma chronique, comme chaque semaine maintenant. Nous aurons un retour sur expérience. Et ensuite, nous terminerons par l'instant... Ah, j'ai fait un quiz ce soir pour vous. Voilà, bref, je vous laisse la joie
petite surprise.
Je vous laisse la joie de le découvrir tout à l'heure. C'est si vous allez voir, c'est assez drôle, justement, vous verrez. Donc sur ce, eh bien, on va lancer les chiffres... Bon, alors on est parti pour les chiffres. Alors les chiffres et le Monopoly. D'abord, nous allons commencer comme d'habitude par une belle définition. Qu'est-ce que le Monopoly? Alors le Monopoly est un jeu de plateau où les individus achètent et vendent des propriétés en vue de leur enrichissement. La partie s'achève quand tous les joueurs sont ruinés, hormis un. Ça vous va comme définition, je pense? Vous avez tous joué au Monopoly, voilà. Donc bon, la première mouture du jeu a été créée aux États-Unis par une certaine Elizabeth Maggie. Le jeu s'appelle alors The Landlord's Game, ce qui veut dire le jeu du propriétaire foncier. C'est un peu moins glamour que Monopoly, hein, on en conviendra. Il a pour but, selon sa créatrice, de montrer le caractère antisocial du monopole du sol, comme l'a montré l'économiste Henri Georges, voilà, qui en gros était un espèce d'économiste marxiste du début du XXe siècle. Le jeu trouve très vite une large diffusion en tant que outil idéologique. En gros, tous les mecs de gauche, ils se passent le Monopoly, ils font jouer leurs gamins, ils font « Hé, t'as vu ? Là, ça marche pas, le monopole du sol. » En gros, c'est comme ça en fait, que ça se diffuse au départ. Et en fait, c'est une version améliorée par un type qui s'appelle Charles Darrow, dont on joue aujourd'hui et qui va être vendu ensuite par la suite aux frères Parker. Quand on était gamin, on avait toujours les Parker Brothers.
Bah, dont le célèbre basketteur.
Oula, je vois pas ta blague.
Tony Parker.
Ah d'accord, non c'est pas les mêmes, c'est eux, ils étaient blancs et moustachus, voilà. Le jeu trouve très vite une large diffusion en fait au départ, en fait non c'est pas tout à fait ça, c'est que en fait Charles Darrow va proposer son idée aux frères Parker qui vont pas l'acheter tout de suite et en fait il va dire bon bah je m'en fous, je la sors quand même Et en fait, ça va faire une telle réussite commerciale que les frères Parker vont la racheter. Et à ce moment-là, ça va exploser parce qu'eux, ils vont le distribuer dans tous les États-Unis. Et donc, ils vont racheter ses droits à lui. Puis après, ils vont les racheter à Elizabeth Magee, qui a été tellement convaincue du bien fondé de la leçon qu'on obtenait en jouant au Monopoly, qu'elle va vendre pratiquement ses droits à un coût très, très, très modique. Voilà. Alors après, pragmatiquement, le Monopoly, ça ressemble à quoi ? Alors, c'est un plateau carré qui se découpe en 40 cases, découpé en un ensemble de propriétés achetables et dont on rajoute dessus les cases départ, la case de prison, la case d'aller en prison, le parc gratuit, les cases chance et les cases caisses de communauté apportant plus ou moins des bonus ou des malus. Donc, après, comment qu'on fait quand ça commence ? Bah, en fait, on met des pions sur la case départ et on lance des dés et on avance. Voilà, c'est super simple. Je pense que plus simple, tu meurs. Alors, quand on tombe dans une propriété, deux cas de figure. Soit elle est libre et on peut l'acheter. Soit elle appartient à un joueur et on lui paye une location plus ou moins élevée s'il l'a aménagée. En gros, si le terrain est vide, on ne paye pas grand-chose. S'il a mis des maisons, on paye le coût des maisons. Et s'il a mis un hôtel, on paye le coût de l'hôtel. Parce qu'on peut construire des maisons et des hôtels. Voilà. Et chaque fois que nous passons la case départ, on touche un revenu fixe, variant selon les éditions. Généralement, c'est, je crois, 10 000 ou un truc comme ça. Une partie, selon la boîte, peut durer entre 1 et 12 heures. Voilà. Si notre version est dotée d'une toponymie parisienne, elle a dans la version originale les noms des rues d'Atlantic City. Parmi la communauté des fans, on fait une différenciation entre les règles du jeu et ce qu'on appelle les home rules ou règles maison. Il y en a plusieurs, et il y en a certaines même qui sont même plutôt célèbres. Comme par exemple, tu doubles le salaire, le revenu quand tu tombes sur la case départ.
Pile, ouais. Voilà. Quand tu tombes pile sur la case départ, tu touches le double.
Voilà. Ensuite, des chiffres pêle-mêle comme ça. Hein. Depuis sa création, le Monopoly s'est vendu à 275 millions d'exemplaires. En gros, les premières versions, elles datent de 1935. Je crois que j'avais déjà dit, mais au cas où j'ai pas dit, voilà. Donc le jeu a pratiquement 80 ans, plus de 80 ans. Il y a certaines versions qui se vendent à des prix folles, particulièrement la toute première, dont le plateau est d'ailleurs été circulaire. Et une version qui est sortie dans les années 40, qui s'appelle la Black Version, qui en fait n'est jamais sortie des tiroirs de Parker Brothers et qui aujourd'hui se vendent à des prix genre 11 000 dollars ou un truc comme ça, un truc de fou. Si elle est complète.
Oui.
Oui, voilà.
C'est toujours moins cher que la plus chère des cartes Magic.
Je pense que la version dorée du Monopoly, faite pratiquement tout en or, qui a été vendue au Qatar, doit valoir un petit prêt. Et c'est laquelle la plus chère ? C'est le Lotus Noir toujours ?
Exactement, le fameux Lotus Noir à 300 000 euros, je crois.
Et c'est pas Genesis la carte la plus chère ?
Non, c'est le Lotus Noir. Il est célèbre pour ça d'ailleurs.
Bah, je connais la carte Black Lotus, ça restait longtemps. Elle ajoute 4 manas gratuits de souvenir.
3.
Donc voilà, tu vois, je suis pas si ignorant que ça. Bon, bref, on parlera des Magic si tu veux. Donc le jeu, il a été édité en 43 langues. Il y a plus de 300 versions du Monopoly. Voilà. Et aujourd'hui, Hasbro, ceux qui commercialisent le Monopoly, ça représente 4 milliards d'euros de bénéfices chaque année. Et le Monopoly représente 40% de son chiffre d'affaires. Alors, après deux petites infos par-ci par-là, les pions ont été inspirés par les nièces du créateur Charles Dorrow, parce qu'en fait, elles y jouaient avec des porte-poneurs qu'elles avaient. Donc voilà, donc en fait,
pour ça, les chiens, le fer à cheval, tout ça.
Exactement.
Ouais.
Et.
C'est un jeu familial.
Et ensuite, la partie la plus longue aurait duré 70 jours.
Ils ont quand même mangé, ils ont dormi un petit peu, ça se passe comment ?
Je sais pas du tout, mais apparemment c'est ça.
Ouais, ça, il faut vraiment aimer le jeu. Hein.
Ensuite, en 2014, un débat entre les fans aboutit même à l'insertion d'une nouvelle règle dans le Monopoly. Et c'est la règle en fait justement de la case départ. Voilà, qui a été ajouté au Monopoly, la nouvelle version de 2015.
Ça n'existait pas dans la version originale de recevoir des sous quand tu fais le tour du plateau.
Si, mais pas le double si tu tombes pile sur la case de barre.
D'accord. C'est une règle maison qui est devenue une règle officielle.
Exactement. Voilà.
C'est pas mal. Sachant la démocratie en action.
Sachant qu'a priori, doit y avoir, comme il y a des championnats du monde de Monopoly, ça veut dire qu'elle a dû être agréée pour les championnats du monde. Sachant que jamais un Américain n'a gagné cette Coupe du Monde. Ce qui est assez drôle vu que c'est les Américains qui l'ont créée.
C'est voilà. Toujours les Coréens.
Non, je crois que c'est principalement des gens de la péninsule arabique. Voilà.
Ça me semble pas dénué de sens.
Moi non plus. Bon, sur ce, pas de commentaires, pas plus, pas rien.
Bah, écoute, les règles, elles sont ce qu'elles sont. Hein.
D'accord. Voilà. Donc, je pense que c'est l'heure de faire la première coupure et de lancer ta chronique, Laurent.
Oui. Vas-y. J'ai hâte. She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town. That digs on me. Alors, les règles sont ce qu'elles sont, mais il s'agit de les critiquer. Je pense pouvoir affirmer sans trop me vanter que je m'y connais question jeu. C'est pas seulement la trentaine de jeux de société que j'ai chez moi qui me le fait dire. Après tout, je pourrais apprécier uniquement les jeux de merde. Mais c'est plutôt le sentiment d'angoisse et de dégoût vertigineux qui me saisit quand me provoque une soirée Monopoly. On pourrait le rapprocher des haut-le-cœur qui vous prennent quand on vous évoque une soirée à thème eugénisme et tiers-monde. Je vais donc pas vous mentir, cette chronique sera extrêmement orientée, peut-être plus que toutes les autres. Mais pourquoi un tel rejet d'un jeu pourtant si populaire ? Après tout, le Monopoly, c'est avant tout l'égalité des chances. Tout le monde commence sur la même ligne de départ et avec la même somme. Qu'on soit blanc ou noir, et je fais pas référence à la couleur des pions, on se déplace tous aussi erratiquement à une allure imposée par le hasard. Ainsi, peu importe qu'on soit doté de l'intellect d'une amibe, qu'on n'ait jamais joué à ce jeu auparavant, ou que tonton Yvon s'emploie à nous déconcentrer à coups de black salas plus désécœurantes les unes que les autres, on aura tous une probabilité à peu près égale de gagner la partie. Alors vous allez me dire, eh ben alors Laurent, si c'est un jeu de l'égalité des chances, pourquoi tu râles ? Tu passes ton temps à nous bassiner sur l'injustice du monde, gnagnagnagna. Oui, tu finis tes phrases avec des gnagnagna, fais pas l'innocent.
C'est possible, c'est possible. Surtout quand je troll.
Alors, je vais tâcher d'expliquer en quoi, selon moi, il s'agit plus d'un défaut que d'autre chose. Pour résumer, dans presque tous les jeux, il existe un facteur aléatoire. Il y a guère cause-échec, que l'aspect chaotique et unique de chaque partie n'est dû qu'à la faiblesse du calcul des cerveaux des joueurs. Et là, je suis pas en train de dire que les joueurs d'échecs sont des gros cons, hein, mais que l'esprit humain est pas conçu de toute manière pour agir de manière rationnelle. Donc je disais, dans les échecs, il n'y a pas de facteur aléatoire. Et au Monopoly, alors faut pas avoir peur de le dire, ce jeu est un gros bipolaire en roue libre. C'est simple, les deux paquets de cartes, les cartes chance et les cartes caisse de communauté, c'est des copies quasi identiques l'un de l'autre. Et dans chacun, on a autant de chances d'apprendre qu'on a gagné au loto. Faut croire que ça arrive qu'au propriétaire. Que d'apprendre que le cancer du côlon de Tante Monique s'est métastasé dans notre porte-monnaie. Quant au jet de dés... c'est une plus vaste blague encore. Sachant que le résultat d'un lancer de 2 à 6 faces, qu'on appellera 2D6 comme tout rôliste qui se respecte se doit de faire, est compris entre 2 et 12, en 2 tours, on a autant de chances de faire le tour du plateau et de rafler 2000 balles gratos que nos adversaires d'avancer de 6 cases, en espérant que ça ne leur fasse pas aller en prison. On me rétorquera qu'avec 2D6, l'aléatoire est pondérable, parce qu'on a plus de probabilité d'obtenir un 7 que tout autre résultat.
Tout à fait.
Oui, mais l'écart max de proba, c'est seulement 15%. Et la plage de résultats possibles, ça reste toujours beaucoup plus étendue qu'avec un unique D6. Donc, j'ose affirmer que malgré les probabilités du résultat d'un D6, les risques liés à l'aléatoire restent bien plus estimables qu'avec 2D6. À ce stade, il y en a peut-être parmi vous qui ont les oreilles qui se sont bouchées toutes seules à force d'entendre des stats. Alors que la partie chiffres est déjà passée depuis longtemps.
Oui, oui, elle était courte pendant cette fois-ci.
Oui, oui. Mais quand même, les gens, on sait que c'est toujours très pénible d'écouter des chiffres, donc peut-être que vous espériez être débarrassé de ça, mais je dois vous mettre en garde. Le Monopoly, c'est que des chiffres. En fait, on pourrait tout aussi bien le remplacer par un tableur Excel en roue libre et attendre que l'ordinateur détermine automatiquement un vainqueur. Finalement, les mécaniques du Monopoly, avec tout leur aléatoire dérégulé, c'est certainement une excellente reproduction des dangers de la finance.
Ah, on y est.
D'ailleurs, en parlant de ça... J'ai appris en préparant cette chronique, comme tu l'as appris toi-même et que tu l'as expliqué, que la créatrice du Monopoly voulait s'en servir pour dénoncer, je cite, la nature antisociale du monopole sur le sol. Moi, je me suis demandé si c'était que ça. Les premières versions du jeu font référence à des taxes sur les produits de luxe, sur le charbon, sur l'héritage, et bien sûr la privatisation des fameuses compagnies de l'eau et de l'électricité. Donc là, on dépasse la simple notion de propriété foncière, et encore une fois, je trouve ça assez réaliste en termes de dénonciation du capital, de montrer aux joueurs qu'un bon capitaliste est un capitaliste qui cherche à éviter les taxes. Entre autres dérives qu'on peut mettre au crédit d'un usage normal du jeu, on peut lister le fait de vider un immeuble de ses occupants par l'instauration d'un loyer arbitrairement élevé, la création de trusts entre différents grands groupes, les différents joueurs, et la délinquance des élites fortunées. Et finalement, mais là ça sort des règles du jeu, le banquier qui sert dans les caisses pour financer sa fortune personnelle. On peut donc partiellement donner raison au but original du jeu, qui était de brosser un tableau éloquent de la société capitaliste. Mais est-ce que c'est suffisant de montrer un masque pour montrer qu'il n'est pas joli joli? Personnellement, j'ai tendance à en douter, mais c'est principalement dû au parti pris du jeu de faire incarner aux joueurs le haut de la pyramide des classes. Deux conséquences à ça. On peut se figurer que tout le monde peut être propriétaire un jour, alors qu'en réalité, on ne commence pas tous au même endroit du plateau, ni avec la même somme, et que certains jouent avec des dés pipés. À ce sujet, je vous invite à regarder l'excellente vidéo de l'Observatoire des inégalités où on propose à des enfants de jouer au Monopoly en adaptant les règles pour qu'elles cadrent avec les inégalités sociales telles qu'on les observe dans la vraie vie. Par exemple, un joueur dont la peau est noire aura plus de chances d'aller en prison ou une joueuse touchera moins qu'un joueur. Le résultat, et c'est assez édifiant, les règles, une fois qu'on leur a expliqué les règles, les enfants, ils refusent tous de jouer, même ceux qui sont avantagés pour autant. J'aime très fort les enfants. La deuxième conséquence à ça, c'est qu'à force de jouer avec un tableur Excel, on peut oublier que les maisons sont, avant d'être des valeurs, des logements avec leurs occupants. La valeur d'usage des biens est donc oubliée au profit de la valeur marchande. Et le public du Monopoly n'est jamais éduqué à ces notions, à moins de se plonger dans de lourds volumes d'économie. D'autre part, l'aspect hautement aléatoire du Monopoly favorise son apprentissage par les jeunes enfants. Et ça, tout le monde l'a compris, puisque c'est habituellement avec Tonton Yvon et son humour vaseux qu'on est initié à ce jeu. C'est un jeu, donc c'est amusant. C'est amusant d'accumuler du flouze, de ruiner les affaires des autres, de frauder le fisc et de voler impunément des fonds à la banque. Et voilà, toute l'éducation de vos gamins est détruite. Plutôt que leur expliquer les dangers de la spéculation, vous leur aurez inculqué le goût des jeux d'argent, du chacun pour soi, la déshumanisation descendant et de l'accumulation déraisonnée du capital. En bref, on crée des gamins cyniques avant même la crise d'ado qui auront pour seul but dans la vie de finir en école de commerce. A contrario, un bon jeu auquel jouer avec les enfants, c'est, en tout cas selon moi, un jeu en coop, à l'aléatoire aisément mesurable pour leur permettre d'entraîner leur intellect, mais qui offre avant tout un aperçu réaliste de la cruauté de la vie. En vérité, je vous le dis, défoncer des zombies à la disqueuse sur zombicide, c'est 100 fois plus sain pour l'éducation.
Merci Laurent pour cette chronique. Encore une fois, je la trouve très engagée politiquement.
Surprend d'y voir.
Alors, tu vois, c'est marrant parce que tu mets en avant quelque chose sur le Monopoly que justement, ses créateurs, voire les Packer Brothers, peut-être ne se rendant pas compte de ce qu'ils avaient dans les mains, mettent en avant. C'est-à-dire, mettent en avant en sens, voilà. Tu dis, on n'a pas les mêmes chances nécessairement, on peut faire n'importe quoi, puis l'aléatoire en fait est pas vraiment aléatoire, c'est ça que tu sembles dire, voilà. En réalité, il est clair que apparemment, au vu des statistiques, il y a trois cases où on est le plus susceptible de tomber sur le Monopoly. Alors je sais plus lesquelles précisément, mais elles seraient dessus ma trois cases sur lesquelles au cours d'une partie, je crois qu'on va tomber nécessairement 3 à 4 fois. Ce qui est plus que toutes les autres cases en réalité. Mais ça n'empêche que quand même, ça reste qu'une affaire de proba. Théoriquement, je dirais pas qu'on a tous les mêmes chances, mais face au hasard, on a tous les mêmes chances.
Oui, bien sûr. Mais je vois pas en quoi. Justement, mon but était d'expliquer que c'est pas un jeu déjà, avant de montrer que c'est pas un jeu sain. C'est-à-dire que à partir du moment où la part de décision est confiné à quelque chose de dérisoire, je vois pas en quoi, enfin, autant lancer un programme sur ordi et regarder ce que ça donne.
Ouais, ça, j'avoue, j'ai trouvé ça assez intéressant. En réalité, oui, je vois bien l'ordi générer une partie de Monopoly, se lancer lui-même les dés, faire bouger les pions, et à vrai dire, ça voilà. Sauf que dans le Monopoly, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout un moment où tu vas commencer à échanger et négocier en fonction de ce que tu as. Il y a toute une partie qui est comme ça, une fois que plus ou moins que les propriétés sont achetées, normalement, tu as le droit de négocier et d'échanger ce que tu as et ce que tu veux.
Oui, mais.
Oui, mais vas-y, je t'écoute.
Ce que tu as, c'est déterminé par ce sur quoi tu es tombé, et ce que sur quoi tu es tombé, c'est déterminé par l'aléatoire.
Alors, il y a un truc que je veux bien entendre sur l'inégalité du jeu, c'est qu'il y en a toujours un qui commence et il y en a toujours un qui termine. Donc théoriquement, celui qui commence et qui ouvre le jeu a plus de chances, peut-être, en tout cas, d'avoir plus le choix. Alors que celui qui a la traîne et qui suit en aura moins. Ceci étant dit, je trouve que relativement, il y a quand même un passage par l'être humain qui ne peut pas être généré par exemple par la machine. Tu vois ?
Bah alors, si tu peux imaginer un programme qui estime les valeurs...
oui, mais il va le faire de façon rationnelle. Imaginons là, toi, on fait une partie à 3. Bon, imaginons toi-même, tu as mis un très très beau décolleté aujourd'hui. Je vais avoir tendance à plus échanger avec toi, Laurent, puisque tu es très belle aujourd'hui, qu'avec Marine qui aujourd'hui s'est pas rasée. Tu vois ?
Et j'ai pas mis de jupe.
Ou alors ?
J'avoue. Oui.
Ou alors, je sais pas, il y a tes principes qui se disent, qui te disent que je joue la provoque, que je joue les séductrices et que je suis qu'une catin qui cherche à.
Oui, mais inversement, au final, le choix me reste, le choix m'appartient. Bah, et t'as libre à toi de me convaincre ou non.
Alors, après, ça c'est la question du libre arbitre. Moi, je suis assez spinoziste dans mon. Ma vision du monde, et du coup je me dis qu'on est guidé par nos affects et que du coup l'existence du libre arbitre est à remettre en question.
Ah mais ça c'est une vision des choses, moi j'ai tendance à penser que nous ne sommes pas...
Parce que finalement si tu te dis dis donc je vois tous tes poils aujourd'hui, est-ce que ça t'intéresserait d'échanger ma rue là contre les deux tiennes? En fait, si je vais faire comme ça, c'est parce que toi aussi, c'est parce que en fait, je réponds à un programme moi-même.
Oui, bon, oui, mais alors là, tu vas vachement loin. Puis surtout que Spinoza, c'est pour reprendre ne serait-ce que Spinoza, dit que tu peux t'émanciper de justement ce genre de réflexion par le fait même d'en être conscient. Le fait que je sais que, par exemple, tu l'as dit toi-même, le fait même que je pense que tu puisses m'allumer fait que je vais changer ma façon de faire. Mais ça n'empêche que ça va créer forcément à haute dépens une interaction contre toi. Et par exemple, bah, justement, tu m'allumes, je vais me dire, bah, Marie, elle est peut-être beaucoup plus honnête. Ou inversement, elle va essayer aussi de m'arnaquer et j'échange avec ni l'un ni l'autre. Et donc, au final, l'interaction m'appartient et tu ne peux pas le générer par un programme, ce si, feeling de la partie.
Si, on peut imaginer que chaque joueur possède une variable... potentielle sympathie liée à un autre joueur qui fait que quand tu interagis avec les autres t'as des chances inégales de convenir d'un accord.
Ah oh, mais ça c'est oublier le plaisir du jeu. Bon allez ok allez soit on va dire
mais il n'y a pas de plaisir dans le jeu de toute manière.
Bon, par contre, il y a un truc qui m'a bien intéressé, un autre truc, c'est que tu as dit que finalement, dans le Monopoly, et ça, j'ai trouvé ça intéressant, la valeur est découplée de l'usage.
Oui.
Et ça m'a fait beaucoup penser, en fait, à la crise des subprimes. C'est-à-dire ce moment où on a, comment dire, volé, enfin, en gros, pas volé, mais saisi les maisons des gens. Tout parce qu'ils ne pouvaient pas se la payer, mais en fait on ne pouvait même plus la revendre parce que en fait
personne ne pouvait se la payer.
Alors finalement une maison ça sert à rien de mettre les gens dehors parce qu'au final ils vont vivre dehors dans la misère, mais en même temps tu as tous des quartiers de maisons vides alors que tu pourrais mettre les gens qui sont pauvres dedans.
Bah, c'est, je vais t'avouer que je pensais exactement à ça quand je disais on peut lister le fait de vider un immeuble de ses occupants par l'instauration d'un loyer arbitrairement élevé. C'est exactement ça.
Mais voilà, ça j'avoue, j'avais pas jamais pensé Monopoly comme ça et comme un système un peu hors sol. C'est vrai que on peut penser le Monopoly comme une
manière de prédire.
Ouais, ou plus ou moins quelque chose de très conceptuel. On évoque tout un, il y a tout un autre chose qu'on n'évoque pas dans le Monopoly, dans le fait que tu ne peux pas expulser des gens entre une certaine... Même s'ils ne payent pas leur loyer, par exemple. Mmh. Mais c'est très hors sol, c'est vrai que c'est très conceptuel. On fait payer les gens au nom de qui, au nom de quoi. On est dans une réflexion où les gens payent une valeur et non plus un usage. Et ça c'est vrai. J'avoue que je trouve ça assez bien trouvé. Voilà. Je ne m'étais jamais vu la chose comme ça. Toi, derrière, je me suis toujours joué au Monopoly parce que j'aime bien m'amuser et j'aime bien lancer des dés.
J'aime bien apporter quelque chose à cette chronique.
Mais oui, ça, je trouve ça assez intéressant. Et enfin, tu parlais des écoles de commerce, etc. Alors là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait que c'est une élite. Moi, je pense que le diplôme...
Je disais ça pour troller, en fait.
Parce que je pense que le mec qui est en école de commerce, c'est l'ouvrier moderne. En fait, chaque année, il y a je ne sais pas combien de promotions et je ne sais pas combien d'écoles de commerce. Ils en sortent tous et à la fin, ils finissent tous dans un espèce de job de bureau qui est peut-être le prolétariat moderne, finalement.
Oui, mais ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont, en fait. Les ouvriers, ils savent que... on les éduque socialement au fait qu'ils sont un peu... c'est un sous-métier, quand même. Hein. Un travail manuel en usine ou ouvrier agricole, même.
Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, mais je pense qu'on pourra en discuter justement après ma chronique, parce que j'en parle un petit peu. Mais peut-être que oui, le type qui sort d'une école de commerce ou de l'ESC Dijon, il est moins conscient qu'il est autant prolétaire que l'ouvrier.
Oui.
Et autant interchangeable. Oh, Marine n'est pas d'accord. Vas-y, exprime-moi.
Du coup, étant donné que souvent, quand tu fais des études de commerce, tu as déjà fait un bac commerce, vente ou autre, tu remarques quand même certaines choses. Après, il faut aimer, quoi, c'est tout.
Non, attends, on est bien d'accord. Tu vois, la semaine dernière, on parlait du fait que le salaire médian, il est à 1700 euros. Concrètement, tu sors d'une école de commerce, tu vas gagner entre 1700 et 2000 euros. Donc, t'es typiquement plus ou moins dans ce salaire médian. Ouais. Donc, en réalité, si tu... Allez, imaginons, tu vis forcément en agglomération parce que tu vas, en tant que mec d'école de commerce, tu vas plutôt aller dans une agglomération. Donc, tu vas payer quand même, à part si tu habites à Paris, un loyer relativement élevé. Hein, surtout si d'un coup, tu cherches à... procréer, te marier, etc. Et bah, tu vas chercher des surfaces qui vont te faire payer cher. En réalité, pour faire des métiers de quoi ? Tu vas faire peut-être un peu de com, un peu de commerce, un peu de choses comme ça. Donc, en gros, des métiers que tout le monde, enfin, je dirais pas que tout le monde peut avoir, mais ou presque, c'était complètement interchangeable. Je sais pas combien de gens sortent par promo chaque année. Ça veut dire que
ouais, complètement interchangeable. Rien qu'au bac, pour avoir fait un bac pro commerce. Combien de fois ils ont fait en sorte de virer des élèves juste pour un bac pro, hein, alors que c'est pas encore une école de commerce. On n'est pas encore à ce stade-là, ni au BTS.
Oui, mais je dis que...
C'est déjà très sélectif dès le début et...
Non, je pense que ça donne l'aspect de la sélection. En réalité, je ne sais pas combien c'est une promo actuellement dans une école de commerce, mais c'est peut-être 60 personnes.
Faudra que je demande ça.
À multiplier peut-être par 20 promos par an ? 20 promos, 20 villes qui ont des promos, hormis HEC, EDSEC, Audencia, et c'est que je ne sais plus laquelle est la quatrième des quatre grands trucs. Concrètement, un mec du milieu de tableau, il ressemblera, allez, on va dire sur une promo de 60, tu en as 30 qui sont comme tous les autres et qui vont être interchangeables complètement. Et en plus de ça, d'autant plus que chaque année, ils vont en sortir 60 autres, tu vois. Et au final, elle prend les termes modernes au sens où...
Ah, mais je pense qu'ils en ont conscience.
Non, je pense pas qu'ils en ont conscience.
Moi, je pense pas.
Moi, je pense que bien plus qu'on ne le pense.
Je pense qu'ils ont la sensation d'être élite.
Je pense
parce qu'il y a un concours au départ.
Oui, il y a un concours au départ. Tu payes 8000 balles quand même pour entrer. Donc, d'un certain côté, il faut déjà avoir les moyens.
Comme tout.
Et à part ça.
Parce que tu crois que les écoles d'art, il y a des écoles gratuites tout le temps sur concours. Non, il y en a aussi, elles sont payantes.
Mais
c'est comme tout.
Oui, mais je veux dire, ils ont.
Je pense
qu'il y a un discours interne par le cadre enseignant qui fait que on entretient les élèves dans l'optique que.
Non mais alors ça c'est depuis le début, hein, depuis rien que le collège qu'on te fout dans la tête certaines choses. Hein.
Dans l'optique que c'est l'élite.
Oui, ça, mais c'est... rien qu'au collège, ça commence dès le collège. Rien qu'avec les notes, crois-moi.
En tout cas, c'est pas à la fac.
Oui, mais ceci étant dit, ce discours-là de voix de garage, parce que c'est grosso modo ça, mmh. ce discours-là, il est peut-être accompagné d'autres choses. C'est pas notre propos. Oui, il y a un discours fataliste qui se met, mais en fait, on dit simplement que, hormis peut-être la différence de salaire, parce qu'un ouvrier va vraiment pas gagner, je vais gagner le SMIC, en réalité, la condition, au-delà de l'aspect financier, entre l'ouvrier et le mec qui sort d'une école de commerce, il est sensiblement le même.
Ouais, mais attends, oui, mais tu me diras, ouvrier, c'est. Les routiers sont comptés comme ouvriers, ils gagnent un peu plus pour certains. Sachant qu'il y a les frais, c'est pour ça, mais ils peuvent aller jusqu'à 3
000
euros.
Mais pour moi, routier est complètement ouvrier, hein. Et il vit sa force de travail. La seule différence entre peut-être le mec de l'école de commerce et l'ouvrier, c'est, je te dis, la différence de salaire. Et,
je pense qu'on pourrait faire un épisode sur les formations.
Ouais, ceci étant dit, il n'a pas tort, toi, je me laisse embarquer dans mon propre, ouais. dans mon propre débat. C'est vrai que ça fait une demi-heure qu'on est déjà à 30 minutes. Donc, nous allons lancer la coupure du milieu.
Oui.
Tu veux ajouter quelque chose, Laurent ?
Non, je me demandais si tu voulais ajouter quelque chose, toi. Mais apparemment...
Non, je pense que je vais lancer la coupure. Comme ça, on fera ma chronique dans la foulée. Voilà.
Ok.
Alors, je voulais dire simplement que la coupure musicale nous a été suggérée par Marine. Que j'ai trouvé que c'était une méga bonne idée.
Je voudrais apporter un petit quelque chose tout de même, juste avant la coupure. Au vu de la prolifération des bouteilles sur la table, je me dois d'annoncer que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, veuillez en consommer avec modération.
On s'en fout, on est complètement irresponsables. Sur ce, coupure, et puis à tout de suite.
Hey.
Studio. Wow. Marine était au top de sa forme. T'es prête ou pas?
Je me réajuste personnellement. Il y a du négligé.
Oui. Voilà, exactement. Tu te relâches en ce moment. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment dans ta vie, Marine? Parle-nous-en.
Je bosse sur ma formation.
D'accord. Bon.
Mais
il y a de la com dedans.
Une formation d'illustration?
Graphisme.
Ouais, mais c'est pas un vrai métier, ça.
Plus que l'illustration, je dirais, quand même.
En tout cas, plus que tatoueur.
Clairement.
Bon, allez. Sur ce, nous allons lancer la deuxième chronique. Alors, peut-on réellement finir une partie de Monopoly? Comme nous l'avons évoqué dans l'introduction, le Monopoly avait été inventé pour prouver les effets néfastes d'un monopole sur le sol par un acteur. Pour avoir participé à de nombreuses parties de Monopoly, surtout pendant des étés bien trop longs dans le Poitou-Charentes avec mes cousins, je me suis toujours posé un certain nombre de questions. Alors, dans l'ordre, combien de fois on s'est fait voler la rue de la paix sous le nez dès le premier tour? Combien de fois nous avons vu s'envoler la caisse de communauté et ses taxes dans les poches d'un autre? Combien de parties de Monopoly se sont réellement terminées? Combien ont généré des conflits avant même le triomphe d'un des joueurs? Souvenons-nous, il y a toujours un moment où le jeu prend un tournant. Après la première partie où on achète généralement les terrains, on commence à construire des maisons et des hôtels, et là, tout le monde commence à banquer, et là, ça commence à partir en freestyle. Le ton entre les joueurs commence à monter, c'est terrible, c'est la fin. Entre ceux qui aimeraient négocier pour payer à crédit et ceux qui aimeraient juste en finir, la partie prend un tour un peu plus tendu. Le Monopoly n'a-t-il été inventé que pour provoquer la folie et le chaos? Si le Monopoly a été inventé pour provoquer un conflit, celui-ci est-il positif ou ne vaut-il que pour son expérience? En gros, est-ce que quelque chose ressort du conflit ou faut simplement vivre le conflit tel qu'il est pour tirer la leçon de la chose? Ok, tu avais compris, je sens que tu avais suivi.
Oui, bien sûr.
Alors, pris au sens strict, le conflit, c'est la guerre. D'abord, quand on parle conflit, et qu'on s'engueule autour de Monopoly, on pense d'abord opposition d'idées. T'es chez moi, tu me dois 10 000 balles. Eh bah dis donc, t'es pas cool. Les règles, c'est les règles. Tu tombes chez moi, tu payes. Ok, je savais pas que t'étais un connard. Tu me dois toujours 10 000 balles et je t'emmerde. En philosophie, souvent le conflit naît sur les inégalités entre les capacités et les ressources des individus. En gros, quand on est tous à poil dans la forêt, il se trouve que toi t'es vachement costaud, donc tu vas plus facilement couper du bois. Moi je suis un petit gros qui court pas très vite, mais je peux attraper des pommes. Et Marine qui sait super bien dessiner et faire des trucs artistiques va pouvoir plus facilement nous faire des vêtements. Ceci étant dit, on va pas pouvoir le faire le même temps, enfin faire tout ça et en même temps avec la même efficacité. Donc ça va générer à la fin soit l'échange, soit généralement le moment où considère qu'on est fou.
Ou le mec le plus costaud tape sur les autres pour faire qu'il fasse ce qu'il veut.
Exactement, mais c'est exactement ça l'idée. Et donc ça aboutit toujours.
Heureusement que je suis le plus gentil d'entre vous.
Et ça aboutit toujours, pour ces philosophes, à un état de violence. En gros, c'est le moment où on se met sur la tronche gratuitement jusqu'à commettre l'homicide. Voilà, donc tu le reprends, le mec costaud bute les autres.
C'est l'essence de la révolution.
Alors, si lors d'une partie de Monopoly, cela n'amène qu'une fin de soirée de merde et un abandon total du fun, chez les deux philosophes dont je parlais, donc John Locke et Thomas Hobbes, cela aboutit généralement plutôt à l'institution de l'État. Donc on peut donc retenir une première idée, le conflit amène d'abord à la création d'un cadre pour son expression. D'accord ? Puisque dans l'État, on s'engueule, par exemple.
On s'engueule à l'Assemblée.
Exactement, j'allais dire ça, j'ai dit dans le cadre d'une démocratie, on s'engueule, mais c'est réglé. Mais même dans le cadre d'une monarchie ou d'une dictature, on peut ne pas être d'accord, mais la loi fait en sorte que, de toute façon, on soit d'accord. Voilà. Quelle que soit la façon dont on règle le conflit, l'État fait en sorte que ce soit réglé. Voilà. Pourtant, je pensais que tu allais me faire une remarque, toi, sur est-ce que la démocratie, c'est pas finalement le début... Enfin, est-ce que la démocratie française n'est pas le début d'une certaine dictature, toi ?
Non, non, je pense juste que le chaos est profitable parce que la démocratie se construit dans le chaos.
Exactement. Donc, apposé au Monopoly, ce cadre, ce sont toutes les règles qui régissent le plateau et dans lesquelles nous pouvons nous exprimer. Cependant, on est bien d'accord que ce sont ces règles qui nous ont amenés à tous nous engueuler, hein. Ok. Donc soyons donc clairs, le conflit, même dans un cadre, et là en l'occurrence c'est le cas du Monopoly, c'est inévitable. Il y aura toujours ce voisin qui fait chier son chien devant notre porte, même dans un état de droit et de démocratie. Il y aura toujours ce gars qui prend ce dernier morceau de raclette sans demander votre avis. On le connaît, il s'appelle Luc. Il y aura toujours ce gros con de Francis pour vous piquer le faubourg Saint-Honoré alors que vous avez les deux autres propriétés jaunes. Tous les penseurs d'ailleurs donc, que nous avons évoqués s'accordent là-dessus. Hobbes vous dira que Francis, ému par l'idée de s'enrichir et la préservation de son capital, l'amenant à se comporter comme un gros con. John Locke arguera que l'aléatoire du lancer de dés vous amènera nécessairement à des inégalités, donc source de baston. Et Marx arguera même que ces inégalités amèneront à la reprise du plateau par les travailleurs. Etc, etc. Le conflit est donc inévitable dans tout état de droit. Cependant, il n'est pas nécessairement créateur de clivages pour tous. Alors, il y a un type qui est en gros le créateur, paraît-il, de la sociologie, qui s'appelle Georges Simmel, et qui développe cette idée particulièrement en avançant que le conflit au sein d'une ville sont créateurs de cohésion sociale. Il y a pour lui...
C'est exactement ce que je viens de dire, non ? Non, j'ai parlé de démocratie.
Pas... Ouais, ouais, non, pas tout à fait.
Rends-moi mon crayon.
Il y a pour lui plusieurs ressorts à cela. La prise de conscience de l'existence d'un ennemi commun entre certains individus, par exemple. Donc, quand Francis achète le faubourg Saint-Honoré, il nous fait réaliser que Marine n'avait pas tort à son sujet quand elle disait que c'était un sale con matérialiste. Et donc, d'un coup, on crée une communauté puisqu'on va s'affronter, on va se trouver un point d'accord contre Francis.
Je suis allergique à la connerie, pardon.
Le conflit révèle que vous accordez au moins sur une chose, à savoir l'enjeu. Le fait même que je rentre en conflit avec Francis quand il commence à être agressif dans le rachat des gares de Marine... montre qu'en réalité nous nous accordons sur le fait que nous voulons jouer au Monopoly et gagner.
Quand tu dis gare de Marine, tu veux dire gare de Marine?
Oui, quand à la gare Saint-Lazare, la gare de Lyon, etc. Oui, et le seul problème c'est que je l'ai. Tu vois, il y a eu un autocorrect par Word, donc voilà, j'ai marqué garde. Ensuite, le conflit pérennise le système dans lequel il s'exprime. En démocratie, si le conflit peut s'exprimer au sein des acteurs de la société, cela signifie que malgré tout, la société est capable de leur donner une place. Cela prouve que même si nos avis divergent, nous nous accordons sur la forme que nous avons donnée à notre société, et donc cela nous rapproche. Le fait même de jouer au Monopoly nous rapproche physiquement et ludiquement autour d'une table, par exemple, si on met ça au Monopoly. Si on applique ça à la démocratie, ça veut dire que si on est d'accord qu'on va débattre à l'Assemblée, et que voilà, ça veut dire qu'on donne une valeur à l'Assemblée et qu'on est capable d'en ressortir quelque chose, quand bien même on ne va peut-être pas réussir. Donc ça pérennise l'institution. Ok ? Le conflit crée de nouvelles alliances et donc de nouvelles communautés. Après une partie de Monopoly, j'ai pu par exemple constater que Laurent était un diable libéral et que je partageais par exemple son amour pour le nucléaire et l'industrialisation. Nous avons fondé à ce titre le parti au pas de course, car on trouvait que En Marche, c'était pas encore assez rapide. Donc, si le conflit de notre partie de Monopoly semble dans un premier temps une division, sur un plan sociologique, il permet la cohésion sociale et l'entente entre les acteurs autour du jeu.
Je ne cautionne pas ces propos.
Mais néanmoins, et là c'est la partie qui était destinée au petit chou, il y a des limites à la cohésion sociale par le conflit. Alors on pourrait arguer qu'en réalité le conflit peut être aussi nocif quand il crée de la cohésion sociale, car cela pourrait paraître artificiel. Même si on s'accorde avec Marine pour dire que Francis est un enfoiré, ou avec Laurent pour créer notre parti, la vérité reste quand même que Francis va gagner et triompher sur notre défaite. D'autant plus si on s'accorde dans un moment de cohésion sur la réalité de notre défaite. C'est-à-dire, grosso modo, Francis est en train de gagner. Et avec Marine, on est bien d'accord sur le fait que Francis commence à vraiment beaucoup s'enrichir. Sauf que la réalité des faits, c'est que même si on se ligue contre lui, c'est qu'on accepte en réalité qu'il est dominant. Et donc, en un sens, on forge notre propre destin, puisque malgré le fait qu'on se réunisse et qu'on forme une cohésion sociale, on accepte le fait qu'on va perdre.
Ou alors, l'un de vous est dominant en réalité, mais il cache très bien son jeu.
Non, parce que dans une partie de Monopoly, on sait tous qu'à un moment, quand Francis il commence à gagner, on va tous se faire baiser parce qu'il a, il a à peu près toutes
les... Dans le cas du Monopoly, effectivement. Mais je pensais à un autre contexte.
Mais on en parle dans la suite. Donc, Marx, par exemple, montre à ce titre que les classes dominantes ont tout intérêt à mettre les ouvriers en concurrence et favoriser les conflits pour maintenir leur domination. Même si les ouvriers finissent par se créer une culture commune, une communauté, ils finiront par s'accorder sur l'inefficacité de leur action contre le patronat. Donc, plus, en gros, plus les gens se parlent, plus se mettre d'accord sur le fait que, finalement, la lutte ne sert à rien.
C'est inutile.
C'est le moment que choisit Francis pour aider Marine, qui tombe sur la rue Lecourbe. Bon, allez, ça va pour cette fois. Provoquons une rivalité entre Marine et moi. Et ainsi, nous divisons, alors qu'en réalité, on n'a ni l'un ni l'autre une once de fric. Voilà, c'est ça, en fait, le fait que le dominant a tout intérêt à nous mettre l'un en concurrence l'un avec l'autre. En réalité, même si nous retrouvons par la suite, ce n'est que pour mieux s'accorder sur le fait que donc Francis va gagner. Néanmoins, dernier point, et celui-là il est factuel, tout conflit doit finir par la fin du conflit, à savoir la paix, et donc généralement un compromis. Après s'être engueulé, on se met généralement d'accord pour résoudre le conflit, et donc on se construit de nouveaux points de convergence. Donc c'est ce que je disais, finalement ça crée une cohésion sociale. Puisque l'aspect du compromis, c'est-à-dire on va se mettre d'accord sur bon, on va arrêter de jouer par exemple, fait que voilà.
Donc, ou bien sur Francis, c'est un enculé. On est tous d'accord pour dire ça, donc on va latter Francis dans un coin sombre.
Par exemple.
Voilà.
Mais justement, d'où ma conclusion. Après s'être pris la tête plusieurs heures avec Francis, avoir eu l'impression de se faire exploiter et avoir perdu tout sens de la dignité, généralement on finit toujours par s'accorder sur une chose. Bon, finalement, le Monopoly, c'est vraiment de la merde. La prochaine fois, on fera une bataille. Voilà.
Non.
C'était la fin de ma chronique.
Pas une bataille.
Mais la bataille, c'est vraiment aléatoire, par exemple.
Oui. Oui, oui, le jeu de loi aussi. Mais tu peux citer plein de jeux de merde comme ça, tu sais.
Le jeu de loi, c'est un bon jeu pour tricher avec son fils. Ouais. Donc, le faire gagner sans qu'il le voie trop. Je te le dis.
C'est pour apprendre à son fils à lancer des dés.
Tu veux dire Didier Deschamps ?
Lancer des dés.
Bon, sur cette mauvaise blague, voilà, c'était la fin de ma chronique. Vu qu'il y avait une chute.
Oui. Ouais.
Donc,
j'ai beaucoup souffert de cette chute d'ailleurs. Tu as dû tomber sur moi.
Oui, c'est ça. Donc, que pensez-vous du fait que... Voilà, le Monopoly génère conflit, mais en réalité, le tout conflit amène à une certaine convergence d'opinions et donc est facteur de...
Convergence des luttes ?
Peut-être, mais ce qui est marrant, c'est que la convergence de lutte tant prônée par l'extrême-gauche, finalement, Marx dit que c'est... À part si c'est une union de toutes les luttes pour renverser le système, il dit que c'est voué à l'échec parce que les ouvriers acceptent leur destin.
Mais... Alors, ça revient à un truc que je dis assez souvent, je suis pas le seul à le dire, hein, c'est que Marx n'a jamais été marxiste, et que le marxisme, il se donne, on va dire, une aura de prestige, un argument d'autorité, en citant un économiste, célèbre, mais qu'à aucun moment, Marx, enfin, il a quand même co-signé le manifeste du Parti communiste, donc partant de là, trahir de tous les pays, unissons-nous. Si, il était pour la lutte, mais, enfin voilà, il était conscient que ça avait ses limites.
Bah, quand même, dans le Capital, il exprime bien que finalement, tout changement et tout changement radical passera par l'usage de la violence. Hein ?
Oui, le chaos.
Donc théoriquement, quand même, il a quand même une théorie de la révolution. Il pense pas que c'est seulement une révolution des pensées. Il dit que la révolution de pensée passe après la révolution du prolétariat.
Redis.
En gros, L'idée, si on prend Karl Marx au sens strict du terme, ce soir on est très dans le dans la philosophie, on est très dans le communisme ce soir. Mais bon, en gros, Karl Marx dit il y a plusieurs phases en réalité à la révolution et qui amènera à ce temps nouveau et idéal qu'il postule. Il dit grosso modo que si on analyse l'histoire, en réalité, toutes les révolutions ont été menées par les bourgeois. C'est-à-dire que, grosso modo, la révolution, ça, c'est toujours un moment où la classe bourgeoise rentre dans le prolétariat dû à une crise, donc amène les idées et l'intelligence qui manquaient au prolétariat pour faire la révolution. Quand ils rentrent dans le prolétariat et donc devient le prolétariat, ils font la révolution. Mais en réalité, c'est juste une réappropriation par les classes bourgeoises des moyens de production. C'est-à-dire que ceux qui étaient plus intelligents, etc., qui encore une fois pourront...
Quand il dit intelligence, il dit pas que c'est des gros cons, hein. Il dit juste qu'ils sont plus éduqués.
Exactement, hein, c'est bien ce que... Mais c'est ce que j'ai dit, hein, j'ai bien précisé. Et en gros, c'est réapproprier les moyens de production. Et donc, à ce moment-là, en fait, la révolution est toujours volée aux prolétaires par ceux qui les ont, entre guillemets, rejoints. Et il dit la seule manière de faire en sorte que le système change, c'est faire en sorte que le prolétariat reste jusqu'au bout maître des moyens de production. Mais après, il dit qu'il y a donc la révolution du prolétariat. Après, il y a ce qu'il appelle la dictature du prolétariat, qui est en gros la masse laborieuse garde le pouvoir. Et là seulement, il y a une révolution des pensées. Et le but, c'est de faire en sorte que cette dictature du prolétariat ait lieu. C'est-à-dire que, en gros, la révolution ne soit pas à nouveau volée par les révolutions bourgeoises. Et il analyse toute l'histoire comme un enchaînement de révolutions bourgeoises. Et quand je dis toute l'histoire, ça va de la chute de Rome jusqu'à la 1789. Et en un sens, 1789, on pourrait penser qu'il n'a pas tout à fait tort, au sens où, une fois que tous les prolétaires se sont massacrés entre eux parce que c'est des crétins, tu arrives avec la pensée molle des Girondins, qui est en fait la pensée des propriétaires terriens, et qui d'un coup se réapproprie totalement la révolution et met en place d'abord.
Mais est-ce que c'est pas un phénomène de gentrification également?
Non, je pense que simplement.
L'opportunisme.
Oui, sûrement, mais finalement, c'est forcément les bourgeois qui sont opportunistes, puisque c'est eux qui sont capables d'avoir les capacités d'analyse pour l'être. Voilà, d'où le fait que ça passe forcément par la violence, et la dictature du prolétariat, c'est une forme de violence. Voilà.
La violence du plus grand nombre.
Donc, en un sens, Marx, oui, il est beaucoup plus communiste qu'il en a l'air. Simplement, lui, il a l'idée, pas du tout, de mettre... Il n'a pas l'idée comme le marxisme-léninisme, c'est-à-dire comme Lénine le conçoit, que la révolution doit se structurer. Il est dans l'idée que, en gros, tu arrives à la dictature du prolétariat et sur un enchaînement qu'il a du mal à définir, pouf, les gens vont changer d'état de conscience et de pensée.
Mais du coup, étant donné, je parlais de...
Et je te préviens, ce sera la dernière remarque qu'on fait parce qu'après on enchaînera sur le retour sur expérience.
Que le chaos a porté à la démocratie, etc. La dictature du prolétariat, tout ça, c'est peut-être juste la révolution permanente.
Trotskiste, tu veux dire ?
Exactement.
En un sens, ça pourrait se penser, mais on pourrait y penser. Voilà, la question mériterait de passer. Je pense que de toute façon, on fera l'URSS et l'Union soviétique
oui,
ou un truc comme ça.
Oui, parce que l'URSS aussi, c'est déprimant.
Voilà. Sur ce, on va faire une nouvelle coupure musicale et puis après, nous allons faire le retour sur l'expérience. Donc, c'est quoi votre expérience liée au jeu du Monopoly ? À tout de suite. Donc, alors, avez-vous déjà joué au Monopoly ?
Bien sûr.
Est-ce que vous avez des années déjà d'abord ? Est-ce que vous aimez jouer au Monopoly ?
Non.
Laurent, je sais ta réponse. À mon avis, c'est non.
Oui, pour le retour sur l'expérience, je suis obligé, désolé pour la caméra, je suis obligé de rappeler au public, sans me faire mousser, que j'ai été vendeur de jeux pendant un an et demi dans une boutique.
Parce que tu trouves ça glorieux de vendre des jeux, toi ? De vendre de l'amusement aux gens ?
Alors,
de pervertir la jeunesse ?
C'est un vrai travail. Et le jeu, c'est universel. Le jeu, c'est le passe-temps qui permet d'éduquer. Je veux dire, ça transcende les cultures et ça transcende même les espèces, étant donné que même dans le monde animal, il y a du jeu. Donc le jeu, le jeu, c'est essentiel et j'ai été très fier de vendre du jeu et j'espère le refaire à l'avenir. En tout cas, du coup, j'ai été vendeur de jeux et moi, mon expérience la plus traumatisante concernant le Monopoly, c'est le fait que pendant ces un an et demi où j'étais vendeur, on m'a qualifié de vendeur de Monopoly. Voilà. Sinon, à part ça, il y a ma grand-mère qui a acheté l'édition Dijon parce que presque
chaque grande ville de France. Tu me casses une des questions de mon quiz.
Presque chaque grande ville de France possède.
On va jouer avec Marine.
Une édition particulière.
Ok. Alors.
Attends, je peux finir.
Donc, vas-y, dis-moi.
Ouais, c'est une anecdote très drôle. Une fois, ma grand-mère m'invite, moi et certains de mes cousins, à jouer au Monopoly, édition Dijon. Et moi, je fais, mais on va quand même pas jouer au Monopoly. Du coup, je me ramène, parce que j'ai été invité, ça se fait pas, avec mon sac de vendeur de jeux, plein de jeux. Et du coup, on a passé la soirée à s'éclater, mais on n'a pas vu l'ombre de la boîte de Monopoly. Voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec vous.
Ok.
Marine,
dis-moi, raconte-moi une de tes belles expériences de Monopoly.
Je m'en rappelle pas vraiment parce que le dernier Monopoly que j'ai fait, c'était il y a un an ou deux, c'était sur Game of Thrones. Et on l'a pas terminé. Parce qu'on finissait pas et qu'on avait faim.
L'édition Game of Thrones ?
Ouais.
Et il y a quoi de différent dans la version Game of Thrones ?
Je sais pas, en fait, je crois qu'il y a des règles qui ont changé un peu, mais après, c'est.
Il n'y a pas une notion de personnage aussi ?
Comment ?
Il n'y a pas une notion de personnage en plus ?
En fait, ouais, t'as les familles selon tête au niveau des figurines et. Tu sais, c'est pas des gars, je sais même plus ce qu'il y a. En fait, ça m'a tellement marqué ce jeu que je l'ai vite oublié.
En même temps, le Monopoly, c'est relativement oubliable. Moi, je me souviens d'une version Star Wars, franchement, où grosso modo, il y avait l'ordre. C'était sur la prélogie. Et il y avait l'ordre 66. Et en gros, une fois que tu avais l'ordre 66, en gros, de toute façon, quoi qu'il arrive, tous les joueurs qui étaient pauvres, ils se faisaient baiser la gueule.
J'ai un ami qui a acheté le Monopoly Retour vers le futur. Je suis sûr qu'il n'y a même pas joué depuis les 3 ans qu'il l'a.
Donc, Marine nous évoquait le fait qu'elle jouait au Monopoly version Game of Thrones. Moi, j'avoue que le Monopoly, pour moi, c'était toutes mes soirées d'été. Et alors, c'est là où, quand j'étais minot. Et alors là où c'est un peu, entre guillemets, fou, c'est que t'as beau parler d'aléatoire, etc. C'est toujours le même mec qui gagnait, en fait. Mais genre toujours. Donc finalement, c'était pas si aléatoire que ça. Je sais pas comment il faisait. Ou si c'était un espèce d'ascendant psychologique ou si c'était tout simplement un ascendant d'intelligence.
J'aurais dit psychologique quand même.
On avait tous les trois le même âge, pratiquement. Et à chaque fois, il nous baisait la gueule, quoi. Et je pense qu'en fait, on n'avait pas de sens de priorité avec la personne avec qui j'y jouais.
Mais ça, tu veux pas en parler dans la prochaine émission consacrée aux violences faites aux enfants ?
Parce qu'on fait ça la prochaine fois ?
Non, pas du tout.
C'est quoi déjà le prochain sujet ?
Non, on n'a pas posé de prochain sujet, mais c'est pas grave, faut qu'on en parle.
Faut qu'on en parle.
Donc, c'est bien, on va arriver sur le dernier sujet. Tu me mets très mal à l'aise, je me sens comme Marine quand tu me touches comme ça. Je te comprends.
Tu vois comment c'est chiant.
Tout à fait. Mais moi, je ne suis qu'amour quand je te fais des câlins, Marine.
Non.
Mais moi, je suis l'incarnation de l'amour, je te permets
non
pas.
Non plus.
Bon, sur ce, on va passer à l'instant LOL.
En fait, c'est nous les victimes ce soir.
On va passer à l'instant LOL et on va, évoquer... On va faire un petit quiz. Puis après, si vous avez des trucs à raconter sur votre bonne semaine, vous n'hésitez pas, comme d'habitude. D'accord, on lance le jingle ? Mais c'est le jingle préféré de Laurent en plus.
MDR.
MDR. Bon alors, je vous propose un petit quiz. C'est vraiment un grand moment ludique. C'est d'abord sur les versions qui existent ou non du Monopoly.
Ok.
D'accord. Bon alors, la première elle est facile puisque Laurent nous l'a révélé. Est-ce que vous pensez que la version Dijon existe ?
Oui. Oui.
Oui.
Le Monopoly Marc Dorcel ?
Oui.
Je pense pas.
Non, ça n'existe pas.
Dommage.
Le Monopoly Gastronomie ?
Oui.
Non.
Non, ça n'existe pas.
Merde.
Le Monopoly Aveyron ?
Oui.
Hélas.
Oui, ça existe. Autant que le Monopoly Vendée et Gironde. Le truc a pas de sens. Le Monopoly Ikea.
Oui.
Non.
Eh bien non, ça n'existe pas.
Putain,
non, mais alors,
faut arrêter
capables.
De répondre oui. Hein.
Mais non, mais j'en suis sûr qu'ils auraient été capables, Ikea, à faire des trucs comme ça.
Alors, si tu veux, quand j'ai ouvert, je vais vous raconter à la fin de ce quiz comment j'ai fait le truc et ce quiz était assez drôle. Le Monopoly Vilain Disney.
Le Monopoly, tu peux répéter s'il te plaît ?
Vilain Disney.
Vilain Disney. Vilain de Disney.
Je crois pas, hein. Non.
Je dirais oui.
Eh bien, c'est un oui.
D'accord. Oh bah ça, comment ils ont fait pour.
Faudra noter les points quand même.
Tu vois, Ikea, ce serait plus logique.
Je pense que pour l'instant, vous êtes relativement à égalité, je pense. Parce que vous avez systématiquement dit les réponses inverses l'un de l'autre. Donc vous devez être à égalité.
Non, c'est faux, on a tous les deux dit oui pour Dijon.
Oui, vous avez donc à égalité.
Oui.
Et alors, le Monopoly pêcheur de bar.
Oui.
Non.
Eh bien, c'est Marine qui gagne parce que les questions sont en appel parce que ça existe. Ça s'appelle Bass Fishing. Et j'ai sorti l'édition, c'est un truc improbable avec des règles complètement improbables.
Quand on dit pêcheur de bar, c'est pas les gens qui vont dans les bars pour pêcher de la gonzesse.
Non, ils pêchent des poissons.
C'est pas des alcooliques.
Alors, il faut imaginer un petit peu comment j'ai fait cet questionnaire. Parce qu'après, je vous précise, j'ai une deuxième partie de questionnaire. C'est qu'en gros, à chaque fois que j'avais une idée, je faisais CTRL F et je faisais la recherche dans Chrome pour voir si elle existait. Il y a des trucs, j'ai fait, c'est pas possible que ça existe. J'ai marqué des mots improbables, genre le Monopoly Metallica, le Monopoly Manchester United, le Monopoly. Mais il y a des trucs complètement fous.
Mais le Monopoly Metallica, ça m'étonne pas.
Mais le Monopoly pêcheur de bar.
Tout existe en version Metallica.
C'est pas faux. Ils ont un sens du merchandising assez fort.
Exactement.
Bon, allez, j'ai des. J'en ai encore 4 dernières et en gros c'est vrai ou faux. Ok. Si on fait un double, on a le droit de rejouer. Mais si on le fait 3 fois, est-ce qu'on va en prison, selon vous ?
Vrai.
Oh, attention au moment réflexion.
Faux, ça dépend quel double tu fais.
Eh bien non, quoi qu'il arrive, quel que soit le double, au bout du troisième double, on va en prison.
D'accord.
Donc la deuxième question, je vous la fais pas parce que est-ce qu'il y a un championnat du monde du Monopoly ? Vous savez la
réponse. Oui, c'est toi qui as répondu, espèce de sale débile de.
SDDM.
Il y a une version du Monopoly où les pions sont des gods. Des gods michés, je précise.
Vrai.
J'irais oui aussi, même s'il n'y a pas Marc Dorcel.
Eh bien non, c'est faux.
Décevant.
Je pense qu'on a l'esprit mal placé tous les deux.
Et enfin, une question très pragmatique. Le montant total en unité d'argent, donc en mono, dans un Monopoly, est de 20 580.
Faux.
Faux.
Eh bien si, c'est vrai. Et voilà. Vous aurez appris
trop
quelque chose ce soir.
Vraiment trop rond pour ça.
Voilà. Alors sinon, est-ce que vous voulez nous raconter un élément positif de votre semaine, les gens ?
Je suis tout oui.
C'était mon anniversaire aujourd'hui.
Mauvais anniversaire.
Voilà. Hier soir, j'étais une raclette, ici même, et en rentrant chez moi, je suis passé devant un bar, j'ai vu mon meilleur pote, je suis rentré dans le bar, et là, il y a le barman, il m'a fait « Ah, c'est ton anniv ? Eh ben, je t'offre un verre. » Et quand il dit « je t'offre un verre », il parle du contenant. Du coup, j'ai gagné un verre, j'ai gagné de la vaisselle, je suis très heureux.
Et ça, en un sens, c'est cool. Moi, j'aurais bien aimé. Et puis surtout, c'est surtout le « Eh, viens, ça fait plaisir !»
Mais ça signifie aussi que le barman, il me connaît à l'avance et que je suis un pilier de bar et que je suis alcoolique.
Mais tu es alcoolique.
Je sais.
Mais t'es salope ce soir.
Non, je suis réaliste.
Je sais pas, tu te venges, t'as quelque chose à tête de nous enlever.
En fait, j'ai envie de faire pipi.
Ok, alors et maintenant, alors c'est le moment de partager. C'est le moment de partager ton moment agréable de la semaine et de faire très très vite alors, Marine.
Je vais avoir 2 entretiens la semaine prochaine.
Pour ?
Pour Cultura et Boulanger.
Pour travailler ?
Ouais.
D'accord.
En renfort de Noël. Hein.
Tu te sens chaude pour vendre des aspirateurs alors ?
Non, c'est en multimédia pour Boulanger.
Bon,
j'ai travaillé en jeu vidéo, j'ai vendu des consoles, ça devrait le faire.
On avait dit un moment heureux parce que t'as l'air vachement joyeuse de le faire.
Bah, en fait, je voyais pas d'autres moments heureux à part où je t'ai dit j'ai fait un rêve glauque.
Ça veut dire que ta vie c'est de la merde.
Bah, en
bienvenue
fait,
sur Dimanche Dépression.
Ah, bon. Ah, ça vous avez manqué ça. Je crois que c'est le moment le plus heureux de notre semaine, c'est d'entendre le rire de Beth.
Oh là là, je suis fatigué. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter. Oui, je pense qu'on peut s'arrêter là.
Non,
c'est
tu nous as pas parlé de ton moment heureux de ta semaine.
Ton moment à toi.
Cette semaine, mon moment heureux était lundi soir, car lundi soir, je suis allé chercher mon fils à l'école. Et à chaque fois que je vais le chercher le lundi où c'est ma semaine, je suis joie et bonheur, surtout quand la maîtresse me dit que c'est un homme extraordinaire, c'est un petit homme extraordinaire, et ça me fait fondre mon cœur et je suis heureux comme c'est pas permis. Voilà.
Alors ça, c'est la réponse de facilité. Je suis pas fier de toi.
Mais en même temps, j'avais rien préparé, j'avais préparé un quiz cette semaine, c'est tout.
Génial, mais ça n'empêche pas que tu aurais pu passer des super moments. Oh si, j'ai une autre anecdote drôle à raconter.
Vas-y.
Allez, j'y vais. Cette semaine, j'ai fait de la marche pour le climat.
Et, Non, tu peux pas te lancer là-dessus, parce que tu sais les questions que je vais te poser.
Je vais quand même me lancer là-dessus, même si je connais les dangers. Et donc,
mais si, moi, comme ça, j'aurais un moment positif.
J'étais dans la manif et les gens, à peu près 20 mètres devant nous, scandaient des slogans. Et on n'entendait rien de ce qu'ils disaient, ils articulaient pas. Du coup, pendant 5 secondes, j'ai fait articulé. Et ils n'entendaient pas parce que j'étais tout seul à le dire. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé un autre jeu beaucoup plus drôle. C'était que, comme j'entendais pas ce qu'ils disaient, j'essayais de trouver des hallucinations auditives qui cadraient bien avec les quelques sons que j'entendais. Du coup, ça donnait des trucs du genre on baisse pas Serge, on se fait Yvain. Et du coup, tous les gens autour de moi, ils n'entendaient plus que ça et puis ils étaient morts de rire. Voilà, c'était le moment heureux de ma semaine.
Oui, Marine, on t'écoute.
Moi, ça va faire 2 semaines que j'ai réussi à faire le Inktober. Et je continue.
Et bien justement, ça nous fait une belle transition pour la fin de ce podcast. Nous avons des réseaux sociaux et nous avons particulièrement le compte Instagram de Marine qui est Lekeko sur Instagram, c'est ça hein ?
C'est ça.
Donc Lekeko, tu peux nous l'appeler ?
Leikeko.
Parfait. Ensuite, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux même de l'équipe, c'est à savoir Nous de Gang TV. Si vous tapez sur Facebook, c'est pour retrouver particulièrement les lives et ce qu'on fait comme contenu.
Comme Twitter aussi.
Parce que sur Twitter, il y a aussi Nous de Gang TV. Vous pouvez retrouver la page Dimanche Dépression pour spécifiquement suivre l'émission. Voilà, où on mettra aussi les podcasts parce que je vous rappelle que tous les samedis, soir, le sort la version audio de l'épisode de la semaine d'avant
sur Spotify
et il sort aussi sur Spotify
et sur iTunes.
Et sur iTunes. Donc d'ailleurs, vous cherchez l'impression, voilà. N'hésitez pas à nous
mettre. Il vaut mieux regarder les épisodes précédents sur ces médias parce que on m'a signalé qu'il y avait des coupures au bout de 22 secondes d'une musique qui était placée sous un droit quelconque. Mmh. Et donc Spotify, ils ont tous les droits. Du coup. Vaut mieux écouter sous Spotify pour pas avoir de coupure de son et ainsi pouvoir bénéficier du machin en entier.
Exactement. Faut pas hésiter, si vous êtes sous iOS, à nous mettre aussi 5 étoiles pour nous permettre de nous faire bien référencer et nous mettre un gentil commentaire. Genre, ouais, c'est génial ce que vous faites, nos potes. Enlevez nos potes parce que ça fait genre, vous êtes un peu corporatiste, mais ça nous va quand même. Voilà. Que pouvons-nous ajouter de plus? T'as des réseaux sociaux, toi, Laurent? Non, t'es pas sur Twitter, t'es pas sur Instagram, tu fais rien.
Il a Insta, mais il est jamais là.
Oui, je poste presque jamais rien.
Donc, sur ce, nous lançons le moment ASMR. On vous dit bonne soirée à tous pour ceux qui nous écoutent en audio. Et à tout de suite pour ceux qui sont sur Twitch. Bisous, bisous. Le moment ASMR, c'est parti.
Les valeurs monétaires sont exprimées en mono. Déroulement. Le jeu se déroule en tour par tour, avec deux dés ordinaires à six faces. Chaque joueur lance les dés, avance son pion sur le parcours, puis selon la case sur laquelle il s'arrête, effectue une action correspondante. Un terrain, une gare ou un service public n'appartenant à personne, il a alors le droit de l'acheter. S'il n'exerce pas son droit de préemption, le banquier met le terrain aux enchères, sans prix de départ défini. Un terrain, une gare ou un service public lui appartenant, rien ne se passe. Un terrain, une gare ou un service public appartenant à quelque autre joueur, il lui paye la somme due pour une nuitée passée.